Je vais parler donc de la Fédération jurassienne, de l'Association internationale des travailleurs. Je préviens tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la Fédération jurassienne. Donc ma présentation concerne des gens qui connaissent pas vraiment le sujet. Pour les grands spécialistes qui sont déjà là, ils pourront peut-être juste s'amuser à voir les erreurs que j'aurais commises. Et ce que je vais aussi faire, par contre, c'est peut-être tirer quelques conclusions sur cette expérience historique, sur ce moment d'histoire et sur ce que ça a apporté. Donc, face à l'internationalisation du capital, l'idée de doter les travailleurs d'une organisation internationale pour défendre leurs intérêts apparaît vers la moitié du 19e siècle. La première à le formuler est Flora Tristan. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'était pas Marx. À cette époque, les conditions de travail sont déplorables. Le travail des enfants dès l'âge de 8 ans, y compris dans les métiers les plus pénibles comme les mines de charbon, sont monnaie courante. La journée de 12 ou 13 heures sont la règle. Les salaires de misère peuvent à peine couvrir les besoins fondamentaux des familles. Ils n'avaient ni retraites ouvrières, ni congés payés, ni assurance chômage. Tous ces droits ont été acquis par la suite, durement, grâce aux luttes des ouvriers et des ouvrières. Le capitalisme sauvage est en pleine expansion, protégé par les États et les armées. Les grèves sont réprimées durement, souvent dans le sang. On joue de la concurrence entre les prolétaires des différentes régions ou pays pour maintenir ces conditions de travail et faire échouer les luttes. L'Association internationale des travailleurs naît en 1864. Les bases en sont jetées l'année précédente par des ouvriers anglais et français réunis à l'occasion d'un meeting de soutien à la Pologne. L'organisation regroupe pêle-mêle, outre des adhérents individuels, des formations politiques, des syndicats, des associations parasyndicales, des coopératives et mutuelles, et même une fanfare suisse, la Persévérante de la Chaux-de-Fonds, qui existe d'ailleurs toujours, mais qui, hélas, n'est plus une fanfare ouvrière, ils l'ont retirée de leur statut. De nombreuses divergences idéologiques séparent les trade unionistes anglais, les proudhoniens français, les communistes allemands marxistes, les libertaires anarchistes, suisses, italiens et espagnols. Très vite, des sections se créent à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Saint-Imier et dans le reste du Jura suisse. Beaucoup des ouvriers qui y adhèrent sont encore des travailleurs à domicile. Ils ont le goût de la lecture et de l'indépendance. Les horlogers vivent plus que d'autres branches ce qu'on appelait pas encore la mondialisation. À chaque crise aux États-Unis, les Jurassiens vivaient une forte récession accompagnée de son lot de chômage. C'est donc tout naturellement que les premières sections de l'international se répandirent rapidement dans le Jura suisse sous l'impulsion du docteur Coulry et de James Guillaume, chacun choisissant par la suite un des deux camps opposés. En 1869, James Guillaume invite Bakounine au Locle et dans le vallon de Saint-Imier. Leur rencontre n'est pas sans conséquence. La convergence d'idées qu'ils découvrent va faire de la Fédération jurassienne le pôle libertaire de l'Association internationale des travailleurs qui s'oppose à la tendance marxiste autoritaire. Soucieux de leur indépendance, ils défendent comme Bakounine l'égalité et la collectivisation, mais aussi la liberté, la décentralisation, le fédéralisme, ces dernières propositions allant à l'encontre de la vision d'un socialisme autoritaire de Marx. Pour comprendre le rôle que jouèrent par la suite les horlogers de l'anarchisme, citons Pierre Kropotkine, théoricien anarchiste et géographe russe, qui vécut une année à La Chaux-de-Fonds et participa à la rédaction des publications de la Fédération jurassienne. Ce fut au sein de la population intelligente remuante des montagnes du Jura que s'élabora ce que devint plus tard l'anarchisme. Jamais aucun de nous n'aurait rien fait si nous n'avions devant nos yeux ce milieu ouvrier, intelligent, pensant, indépendant et dévoué qui s'était formé dans les montagnes et le vallon. Excédé par cette opposition, Marx fait tout ce qu'il peut pour éliminer ce courant. En 1872, il croit bien y parvenir. Au congrès de La Haye, il réussit à faire venir un maximum de délégués qui lui sont acquis, dont certains sont censés représenter des sections qui s'avérèrent inexistantes. D'autre part, Bakounine ne peut s'y rendre, car il est interdit de séjour aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs pour cette raison que le comité central, acquis à la tendance autoritaire, a choisi ce site. Marx n'était pas un bon orateur, il redoutait la confrontation directe avec Bakounine. Grâce à cette majorité factice, il fait voter l'exclusion de Bakounine et James Guillaume et manque de quelques voix celle d'Adhémar Schwitz-Gebel, tous délégués du Jura. Scandalisé, les sections de tendance anti-autoritaire de l'Association internationale des travailleurs, notamment d'Espagne, d'Italie, de France, de Belgique, des USA, organisent un congrès à Saint-Imier où les résolutions prises sont clairement libertaires. Pendant quelque temps, deux internationales coexistent, l'une dont le siège est à Londres, qui se déplacera à New York, celle de Marx, l'autre dont le siège est dans le Jura suisse, chaque section se déterminant pour l'un ou l'autre par des échanges de correspondance. L'internationale de Marx disparaîtra rapidement après ces événements. Celle des anti-autoritaires survivra plusieurs années et son organe sera le bulletin de la Fédération jurassienne. Le bulletin de la Fédération jurassienne était le journal des sections de la Fédération jurassienne de l'Association internationale des travailleurs et est paru de 1872 à 1878. Il était diffusé dans le monde entier et servait d'organe de liaison des sections anti-autoritaires de l'AIT. Pour bien comprendre l'importance que ça avait, je vais citer Marianne Henkel dans son livre sur la Fédération jurassienne, que vous trouverez d'ailleurs au stand d'Espace Noir, c'était notre page de publicité. Autant les événements internationaux ont de l'importance pour les jurassiens, autant les Espagnols, les Italiens, les Français, les Belges attendent les commentaires et les jugements du bulletin. Si la Fédération jurassienne n'existait pas, la fragile unité de l'internationale anti-autoritaire serait probablement condamnée. Mais entre ceux qui regrettent le parlementarisme et ceux qui rêvent de plaie et de bosse, elle fait entendre la voix d'une raison anarchiste, d'une modération révolutionnaire, et plus l'unité est menacée, plus elle appelle à la tolérance et au respect du pluralisme. Si la question de la participation ou non aux élections est souvent évoquée pour expliquer le conflit, ce sont surtout deux conceptions du socialisme qui s'affrontent. Marx voulait créer un État fort et centraliste sous l'influence d'un puissant parti communiste. Les socialistes libertaires, eux, défendaient une conception d'une société autogérée, fédéraliste et décentralisée, où les communes et les associations de travailleurs producteurs disposeraient d'une large autonomie. Près de 50 ans avant les goulags, les anarchistes jurassiens, Bakounine et avant eux Proudhon, dénonçaient les risques de dérive totalitaire de la conception marxienne. Rappelons la position de Bakounine à ce sujet. Je cite. Les marxistes prétendent que la dictature seule, leur dictature bien évidemment, permettrait d'exprimer la volonté populaire. Notre réponse est celle-ci. Nulle dictature n'a d'autres objectifs que sa perpétuation, et elle ne peut conduire qu'à l'esclavage du peuple qui la tolère. La liberté ne peut résulter que de la liberté, c'est-à-dire de la rébellion du peuple laborieux et de sa libre organisation. Avant les conflits de la Première Internationale, les tendances autoritaires de Marx s'étaient déjà manifestées. En février 1846, par exemple, Marx et Engels prennent l'initiative de lancer un réseau de comités de correspondance communiste, toujours dans l'espoir d'organiser internationalement les travailleurs. Il enverra une lettre à Proudhon. Je cite « Soyez mon correspondant et éliminez Grune, qui n'est qu'un charlatan et un parasite. » Grune était un philosophe allemand, disciple de Feuerbach, avec lequel Proudhon s'était lié d'amitié malgré les différences idéologiques. La réponse de Proudhon est significative. Elle date du 17 mai, accepte avec tant de réserve la proposition de Marx qu'elle se transforme en un refus poli. Ne nous faisons pas les apôtres d'une nouvelle religion. En un mot, je fais profession avec le public d'un antidogmatisme économique presque absolu. Après avoir démoli tous les dogmatismes, et a priori, ne songeons point à notre tour à endoctriner le peuple. C'est précisément ce conseil que Marx aurait dû écouter. Ce qui aurait peut-être évité la scission au sein de la Première Internationale et la dérive totalitaire de la Révolution russe. Marx prit très mal cette réponse et allait désormais être en opposition permanente avec Proudhon. L'occasion allait se présenter avec la publication du livre « Philosophie de la misère » dont il fit une critique sévère sous le titre ironique « Misère de la philosophie ». Les critiques de Marx, parfois justifiés, passeront à côté de l'intérêt de la proposition de Proudhon d'une nouvelle conception d'une dialectique dite sérielle, qui n'est pas sans rappeler des courants philosophiques actuels de cette école. Je ne rentrerai pas dans les détails, n'étant pas moi-même philosophe et spécialiste du domaine, et parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui distingue surtout Marx de Proudhon, et distinguera plus tard les socialistes libertaires des marxistes, se trouve principalement ailleurs. D'abord, le pluralisme. Les défauts de Marx n'auraient peut-être pas eu la conséquence que l'on connaît s'il n'avait justement pas institué une nouvelle religion dont il était le prophète. Elle fut donc prise avec foi et dans son entier. La pensée de Proudhon n'est pas exemple d'aspect critiquable, mais il n'a jamais eu ni revendiqué le statut de prophète, ni de l'infaillibilité de ses théories. Au contraire de Marx, les Jurassiens n'avaient à l'origine pas la volonté de limiter la tendance opposée. Elles militaient pour l'autonomie des sections et la pluralité des positions. Elles proposaient que le bureau central ne soit pas la direction de l'AIT, mais un organe de coordination et de transmission des informations. C'est à cause de cette divergence, plus que celle évoquée habituellement, comme la non-participation aux élections ou les conflits de personnes, que la scission a été consommée. En d'autres termes, pour nous libertaires, il en est de même dans le domaine de la théorie et de l'action sociale que dans l'écologie. Il faut préserver la biodiversité des idées et des stratégies. C'est par la multiplicité des réponses que la vie réussit à s'adapter à son milieu et à ses fluctuations. Pour les mouvements sociaux, c'est la même chose. Un autre point fondamental qui oppose les libertaires aux marxistes est le refus des maîtres à penser, donc le rapport avec le pouvoir. Certes, Proudhon fut le premier à se déclarer anarchiste et fut sans conteste un grand inspirateur du socialisme libertaire. Ses concepts de mutualisme, de fédéralisme, d'autogestion continuent aujourd'hui à être des fondements de la pensée et de l'action libertaire. Mais jamais il n'y eut de culte de la personnalité et dans la grande majorité, les anarchistes des époques qui suivirent surent prendre ce qui les intéressait et rejeter ce qui ne leur convenait pas. Notamment les délires de Proudhon, ces délires discriminatoires, en particulier vis-à-vis des femmes. Ce rapport égalitaire et critique entre les théoriciens et les militants continua par la suite, notamment dans celui des Jurassiens avec Bakounine. La fédération jurassienne, les socialistes libertaires et plus encore les communistes libertaires ne se rangèrent pas systématiquement du côté des théories de Proudhon contre celles de Marx. Mais la quasi-totalité des anarchistes ont défendu le fédéralisme, l'autogestion, le pluralisme et s'opposèrent au centralisme et à la dictature du prolétariat. Et encore plus à l'hégémonie d'un parti, fut-il communiste. Ce sont ces dernières notions qui, selon moi, ont causé la dérive totalitaire du régime soviétique depuis la prise de pouvoir de Lénine. Car déjà à cette époque, la répression politique et les camps ne concernaient pas seulement les partisans du despotisme tsariste, mais tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne du Parti communiste. Libéraux, socialistes révolutionnaires, anarchistes et même certains communistes pas suffisamment orthodoxes. Rappelons les répressions de Kronstadt et la répression des libérateurs de l'Ukraine, les Makhnovistes. Si l'internationale ne survécut pas au XIXe siècle, elle fut dans ses tendances multiples le terreau qui permit l'éclosion de différents courants du mouvement ouvrier. Que ce soit la social-démocratie, les syndicats, les partis communistes, les anarchistes, les anarcho-syndicalistes, mais aussi les mouvements alternatifs, puisqu'on y développa des coopératives, des cercles ouvriers et des maisons du peuple, ancêtres de nos centres autonomes. Les enseignements de la première internationale. Aujourd'hui, plus encore qu'à l'époque, une union internationale des travailleurs et des travailleuses, des classes dominées, semble être la réponse la plus crédible à la mondialisation capitaliste. De nombreuses tentatives ont été réalisées et pour certaines continuent d'exister, mais aucune n'a réussi à atteindre les buts fixés par la première internationale. Prenons par exemple la deuxième internationale au début du XXe siècle, qui fut celle de la social-démocratie. Elle tournera au cours des décennies, vous le savez mieux que moi, le dos à ses idéaux. La troisième internationale, qui est apparue dans les années 20, deviendra un instrument aux mains de l'URSS et sombrera avec elle. La quatrième des trotskistes, dans les années 30, subira de multiples scissions et n'atteindra jamais la masse critique. Quant à celle des libertaires, celle au pluriel, les multiples tentatives ne réussirent jamais à réunir suffisamment de groupes pour peser significativement sur les mouvements sociaux. Peut-être devrions-nous nous contenter des grandes manifestations, rencontres contre la mondialisation. Personnellement, j'en doute. À voir comment l'économie triomphante enfle malgré notre résistance et leurs erreurs de gestion, il y a de quoi se poser des questions. Il faut peut-être rappeler quelques éléments de base justement de la lutte ouvrière. Le fonctionnement économique conditionne toute la société. Il n'y aura pas de changement significatif sans changement des rapports économiques et pas de transformation du système sans les acteurs principaux de la création de valeur que sont les travailleurs, les salariés. La lutte des employés, des ouvriers, des ouvrières est donc l'élément incontournable de la résistance et de la transformation sociale. L'économie capitaliste crée un antagonisme inconciliable entre les propriétaires de capitaux et les producteurs-travailleurs, les prolétaires. Cela ne veut pas dire que tous les patrons sont forcément de méchantes personnes, mais que leur intérêt est de payer le travail le moins cher possible pour prélever sa plus-value qui l'enrichit et qui lui permet aussi d'investir. Le prix du travail n'est pas fixé uniquement par le patron, mais surtout par le marché, soit par l'ensemble des patrons et financiers et par le rapport de l'offre et de la demande. Ce qui ne veut pas dire que les employeurs n'ont aucune influence sur ce marché puisqu'ils peuvent tirer vers le haut ou vers le bas. Mais les associations de travailleurs, sont puissants et combatifs, le prix de ce travail peut être tiré vers le haut par l'action collective des travailleurs. Celui qui pense, comme on l'entend souvent actuellement, qu'il peut seul défendre son revenu et ses conditions de travail en négociant avec son employeur, se trompe donc lourdement. Car la marge de manœuvre de ce dernier est conditionnée par la concurrence. Il peut bien sûr obtenir moins s'il se défend mal, ou le maximum obtenable s'il se défend bien. Mais si le marché, comme c'est le cas actuellement, fait pression vers le bas, il ne pourra rien faire et cela peut lui coûter très cher. Dans cette situation, seule la résistance collective nous permet d'agir et de redevenir acteurs de notre vie et de ne pas être une feuille morte emportée par un torrent. La solidarité est un élément indispensable à la défense de la condition ouvrière, que ce soit d'un point de vue réformiste ou révolutionnaire. Comme nous l'avons vu, le marché fait pression sur les salaires vers le bas, même si un employeur veut préserver le pouvoir d'achat de ses salariés. Il ne peut s'opposer à cette pression. La seule force capable de s'y opposer sont les travailleurs unis dans les entreprises multiples d'un secteur. Plus les travailleurs sont organisés et plus ils sont unis et majoritaires, plus leur capacité d'influence est réelle. Toutefois, depuis le développement de la mondialisation libérale, l'internationalisation de la concurrence, couplée au coût très bas des transports, permet de jouer sur les délocalisations pour diminuer la main-d'œuvre. Les syndicats n'ont pas su anticiper cet état de fait en s'organisant internationalement suffisamment pour peser contre l'offensive ultralibérale. Une solidarité internationale est donc indispensable pour résister à la dégradation générale des conditions de travail et de la sécurité. C'est donc par l'union des travailleurs de tous les pays et de toutes les origines que nous pourrons reprendre la maîtrise de notre quotidien et non par le repli sur soi que nous proposent les nationalistes populistes qui ne fait que nous diviser. C'est aussi l'occasion de nous faire prendre conscience de notre capacité à changer le cours de l'histoire et de rendre un autre monde possible. Il serait nécessaire de tirer les conclusions de nos expériences, car si le capitalisme est triomphant, il nous précipite la tête dans le mur autant socialement qu'au niveau de l'environnement. Et nous ne pourrons renverser la vapeur qu'en unissant nos énergies et en développant des stratégies collectives de lutte sociale, régionale, internationale, en évitant les erreurs du passé, en se défiant des visions dogmatiques de celles qui ont tendance à instaurer des sujets tabous, de sacraliser les idées qui sont réfractaires au pluralisme et qui ont un goût immodéré pour le pouvoir et la violence. Il en existe malheureusement dans des proportions différentes, certes, dans tous les courants de pensée, même paradoxalement chez nous, les libertaires. Merci si vous avez des questions. Ah, oh, je signale que j'ai tiré quelques facsimilés du bulletin de la Fédération jurassienne pour les personnes qui voudraient un petit souvenir. Les théories de Marx, j'ai pas compris qu'elles viennent vers nous. C'est-à-dire que dans Marx, il y a toute une série de théories qui ont leur raison d'être, hein, par rapport à la lutte des classes, par exemple. Bakounine lui-même reconnaissait à Marx que certaines de ses analyses étaient pertinentes. Maintenant, bien sûr, c'est comme tous les textes du 19e siècle et ils mériteraient d'être développés. Il n'y a pas d'opposition à ce niveau de l'analyse forte au niveau des anarchistes, bien que eux mettaient peut-être par rapport au matérialisme historique, considéraient que ce n'était pas le seul paramètre qui rentrait en ligne de compte, même si c'était un paramètre qui avait toute sa force. Mais je pense que pour certaines choses, ça vaut la peine de relire Marx, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, mais c'est un peu long, hein. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de ne vous être pas endormi. Ah oui. Mais oui. Vas-y. Salut. Ça va et toi?
Oui, je vais t'éviter prochainement. J'ai un peu terminé la bibliothèque.
Ah, d'accord.
Envoie un message.
T'as vu ce qu'un vieux copain m'a donné? C'est autour d'une vie de Kropotkin. Mais une toute vieille édition.
Une vieille édition. Moi, j'ai acheté dans une brocante, une édition plus moderne, en rareté.
Ouais. Ouais. Non, hein.
Et moi, j'ai acheté dans la théorie de la propriété.
Ah ouais, qu'est-ce que la propriété, ouais.
Non.
C'est pas la même.
Ah ouais. Théorie de la propriété. Quand il dit que la propriété, c'est la liberté. J'ai manqué la... Mais oui.